Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Vous en avez maintenant l'habitude, nous débutons toujours notre chronique par la citation d'un auteur célèbre. Cette semaine, nous allons nous tourner vers le nouveau prix Nobel de littérature 2025, dont il s'agit de Laszlo Krasna, j'ai toujours des difficultés à le dire, Krasna Orkai. C'est un auteur hongrois reconnu, avec un style unique, des thèmes sombres. Il a exploré souvent la condition humaine, la désolation et l'absurdité de la vie à travers des récits qui pouvaient sembler pour certains un peu labyrinthiques. Sa manière d'écrire est caractérisée par de nombreuses phrases et une profondeur psychologique. Ce n'était sans doute pas un grand sportif, mais nous retiendrons cette phrase évoquant la solitude. Nous marchons seuls parmi les autres. Chacun enfermé dans son propre monde, comme des ombres qui se croisent, sans jamais vraiment se toucher. Il évoque là, bien sûr, la solitude urbaine, ça n'a rien à voir avec nos randonnées et nos échanges. Mais je voudrais compléter cette référence par une citation qui renvoie à sa vision de l'absurdité de la vie. Il disait « La tragédie de l'existence humaine réside dans le fait que trop souvent, nous choisissons de ne pas voir ce qui est sous nos yeux. »
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Après cette référence, nous allons nous consacrer à une autre référence que les auditeurs de Radio FM Plus connaissent bien, Yolande Gounel. Bonjour Yolande.
Bonjour Robert.
Je profite donc de ta présence pour bousculer un peu l'organisation de notre chronique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais en plus des très nombreuses émissions religieuses qu'elle produit, Yolande est également, depuis de très nombreuses années, une randonneuse émérite.
Émérite, peut-être pas, mais disons passionnée, oui.
Et en plus de son attachement à la randonnée, c'est également greffé une passion pour la géologie.
Effectivement, depuis quelques années, je suis très intéressée par savoir comment notre Terre fonctionne et je voudrais partager quelques notions avec vous.
Mais ça tombe très bien, parce qu'en plus, je crois que tu disposes aujourd'hui d'une collection riche de plus de 600 spécimens.
C'est des pierres que je ramasse un peu partout dans le monde et puis plus particulièrement quand même dans notre région. Alors pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, je m'intéresse à l'histoire de notre planète. Au départ, je suis historienne, ça n'a rien à voir, mais je suis remontée un peu loin et comme je fais toujours les choses un peu à fond, donc je suis arrivée à la planète. Alors, la planète, qu'est-ce que c'est ? C'est une boule, en gros. C'est une boule avec un cœur en fusion, très chaud. Et cette chaleur, elle cherche à se dégager. Les points chauds vont vers les points froids. C'est une notion de physique. Et alors, par convection, ça fait bouger toutes les plaques de notre planète. Ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne des volcans, ça entraîne des tremblements de terre, mais ça entraîne aussi nos paysages, ça entraîne les montagnes. Alors, les plaques, elles bougent. Elles se séparent, elles se rapprochent, elles se chevauchent, elles se montent dessus. Ça crée donc au départ des roches magmatiques. Le granit, qui est une roche plutonique, ce n'est pas un volcan, ça reste à la surface. Et puis les roches volcaniques. Ces roches, une fois qu'elles sont en l'air, qu'elles sont sorties de la mer, elles s'érodent. Ça fait des petits détritus,
oui.
Comme sur vos dents, par exemple. Quand vous mangez, puis si vous ne vous lavez pas les dents, ça va faire un truc qui n'est pas très beau. Et petit à petit, ça va devenir sédimentaire. Eh bien, c'est ça, ça se passe au fond de la mer. Puis, c'est relevé par les mouvements tectoniques et ça donne du calcaire, ça donne des grosses masses comme les causses. Et puis, vous avez donc, ça, c'est les roches sédimentaires. Et les troisième type de roches, ce sont les roches métamorphiques. Quand les continents se montent dessus, une énorme pression, les roches qui sont au fond, bien en dessous du niveau de la mer, elles se modifient. Voilà les trois types de roches.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez Je marche, donc je suis. I'm not trying to have another conversation. Probably
not gonna wanna play me on your station. Pouring out. Personnellement, je trouve cela passionnant et quelque part paradoxal, car d'un côté, on a un grand nombre de randonneurs qui fulminent contre les chemins trop caillouteux de nos espaces régionaux, et de l'autre, ceux qui profitent de ces moments pour investiguer et lire dans ces minéraux une partie de l'histoire de notre planète. Donc, nous avons décidé, avec Yolande, de cheminer en terre héraultaise, mais pas que, un cheminement un peu particulier, car nous allons reprendre un récit d'un demi-milliard d'années en évoquant les grandes évolutions planétaires qui ont marqué notre planète.
Je marche, donc je suis, sur Radio FM+.
Nous voilà donc embarqués pour évoquer les grandes étapes qui ont abouti à ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors Yolande, pour démarrer, un bond en arrière de quelques 540 millions d'années, quand même, pour évoquer le commencement, l'ère primaire dénommée paléozoïque. J'arriverai pas à le dire. paléozoïque.
C'est ça, paléozoïque. Alors, c'est pas tout à fait le commencement. En fait, c'est le commencement de ce qu'on voit. Parce qu'il y a quand même, avant, il y a 4 milliards 700 et quelques. Hein. Mais on ne sait pas grand-chose. Disons qu'on ne sait pas grand-chose avant 2 milliards d'années. 2 milliards d'années, on commence à voir quand même quelques... Même avant, on a quand même des restes. Mais disons qu'à 540, le Cambrien, là, on voit la vie, disons, de façon plus... comment dirais-je, moi ? On la voit dans les fossiles. Alors, dans notre région, on n'a pas grand-chose avant 540 millions d'années. Pardon. On a donc le Cambrien autour du Vigan, oui. Terrain sédimentaire, oui. Qui remonte au Cambrien. Oui. Autour de Saint-Bresson, vous avez aussi, mais vous ne les verrez pas, des volcans, des traces de volcans, du volcano-sédimentaire qui remonte à loin.
Oui, et je crois qu'on peut qualifier ça de vestige, mais on en rencontre quand même, notamment si on fait allusion au pic du Vissou, qui a une particularité singulière, car en fait, ce pic que les randonneurs connaissent bien a subi une inversion des roches avec les plus anciennes, qui recouvrent les plus récentes. Donc, on marche là sur des sols qui ont plus de 500 millions d'années. Ensuite, il y a les monts d'Orbe. On peut aussi découvrir là le fameux granit du Mendig, qui date de cette période environ, et qui se distingue dans ce paysage par sa couleur caractéristique rose et sa texture grenue. On peut également citer les flancs du Carousse, et de l'Espinouse, qui sont constitués de roches héritées de l'ère primaire, avec du gneiss riche en paillettes de mica. Il y a aussi les gorges de Colombières, avec là encore du gneiss et du schiste. Et puis il y a cette particularité, en fait, des sources thermales d'Avène. Ces eaux sont captées dans les dolomies du Cambrien inférieur. Elles proviennent, bien sûr, des infiltrations d'eau de pluie, qui vont descendre en profondeur, se réchauffer, avant de revenir en surface, minéralisée 40 ou 60 ans plus tard. Après le Cambrien, où il y a quand même pas mal de sites qui notent la présence de ces roches, on va sauter à pieds joints sur l'Ordovicien, le Silurien, on saute 5 millions d'années environ, et on arrive à la période du Dévonien, vers 400 millions d'années, avec l'apparition des premiers animaux terrestres.
Alors avant, effectivement, la vie était uniquement sous la mer. Vous avez d'ailleurs dans notre région, à la cave coopérative de Cabrières, au sud du Salagou, de magnifiques spécimens de trilobites que vous pouvez voir librement donc à cette cave coopérative. Les trilobites, ben, ce sont des petites bêtes qui vivaient sous la mer. Alors, il ne faut pas s'imaginer quelque chose de tranquille. Hein. C'est le début de la prédation.
Oui.
Les animaux, ben, ils commencent à chasser pour se nourrir. Et il y a des bricolages évolutifs qui sont absolument remarquables. Mais le but, c'est de manger l'autre, finalement. Ce n'est pas très sympa, tout ça. Et puis, en même temps, il y a le sable ben, qui se dépose et qui constitue le plancher océanique.
Ce fameux plancher océanique.
Voilà, on a parlé tout à l'heure en parlant de vos dents, mais ça ne se produit pas dans votre bouche parce que je vois que vous lavez les dents. Vous avez une dentition parfaite. Donc, revenons à nos bestioles. Elles sortent vers 400 millions d'années. Il y a moins 400 millions d'années. Pourquoi elles sortent? Pas simplement parce qu'elles se disent « Tiens, coucou, il commence à y avoir des arbres sur la terre et ça serait sympa », mais c'est simplement pour éviter la prédation, justement. Ben tiens, il y a des méchants au fond de la mer, on va les mettre nos œufs sur la terre quand c'est un peu humide. Et puis aussi pour manger. Il y a des algues, il y a des choses comme ça, il y a des buissons. Donc les bestioles, si on peut dire, elles commencent à attraper des poumons et puis à savoir marcher. Et donc, comme vous l'avez dit, le dévonien, premiers animaux terrestres. Voilà.
Voilà, c'était moins 400 millions, donc on avance un peu, on arrive à 360 millions d'années environ, et là, on rentre dans la période du Carbonifère.
Oui, et là, ça devient très compliqué. Enfin, c'était déjà compliqué avant, mais on n'en a pas parlé parce qu'on veut rester simple. Mais la géologie, même quand on veut rester simple, c'est compliqué. Alors, vous avez un super continent qui s'appelait Rodinia. Il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on l'a appelé comme ça. On ne sait pas comment il s'appelait à l'époque, il n'y avait personne pour le dire. Donc, voilà, on l'appelait Rodinia. Alors, super continent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plaques, elles se rassemblent et puis elles se détachent. Et donc là, à ce moment-là, le Rodinia se fragmente. Et puis, une fois qu'ils sont fragmentés, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent de nouveau, vers 380 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'orogenèse hercynienne. Vous avez appris ça à l'école, au primaire. C'est les Vosges, le Massif central, etc. Ça transforme les roches parce que, comme je l'ai dit, quand ça se rapproche, eh bien, les continents rentrent en contact. Ce n'est pas une caresse gentille. Ils s'empilent les uns sur les autres. Vous avez 90 km de roches sur les roches qui sont en dessous. Inutile de dire que les roches qui sont en dessous, elles font la tête, elles n'apprécient pas. C'est lourd, ça fait 3 gigapascales. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, voilà. Température 600-800 degrés. Ces roches qui sont tout en dessous, elles fondent partiellement et elles donnent des micaschistes. Les micaschistes, on en trouve beaucoup dans la région, là où c'est le plus haut grade de métamorphisme, en tout cas par rapport au schiste. D'autres roches vont fondre encore plus et elles vont devenir liquides. Ça va être du magma. Mais ici, dans notre région, ce n'est pas du magma qui va se transformer en volcan. Il ne va pas sortir. Il va rester au fond et puis il sera érodé par la suite. C'est le granit, c'est les plutons. Inutile de dire que dans notre région, il suffit d'aller sur les Gouales, autour de les Gouales, vous en avez jusqu'en Lozère. Et autour de ces plutons, alors moi c'est quelque chose, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que j'adore ces roches, ce sont les cornéennes. Ce sont des roches qui ont un aspect brûlé parce que justement le granit a brûlé tout autour les roches qui étaient là. Vous en avez de belles sur les Gouales et vous en avez de belles au Mont Mal, au-dessus de Dourby. Voilà. Et ben, la chaîne donc, de montagne pour en finir, eh bien, cette chaîne hercynienne, les Vosges, qui n'est pas très haute, eh ben, elle est montée quand même jusqu'à plus de 5000 mètres. Et une fois qu'elle est montée, ben, elle recommence à descendre puisqu'elle va s'éroder.
Voilà. Et donc, j'en reviens moi au Carbonifère, car comme son nom l'indique, on parle de charbon là.
Oui, alors le charbon, effectivement, formé au Carbonifère par les plantations qui commencent à prendre des ampleurs assez fortes. Alors, vous avez des bassins dans notre région, notamment avec les mines d'Alès, qui ont donné du charbon pendant longtemps.
Et je voulais dire aussi, il y a la fameuse, parce que là, on le voit à l'œil nu, la falaise de la Padenne. Sur ses flancs, des couches de charbon de 1 à 6 mètres, alterne avec des couches dites stériles de grès et de schiste. Et tout ceci est près du bassin minier de Graisse-Sac. L'on peut également citer un autre bassin minier des pays de l'Orbe, donc le belvédère de Carlincas, qui là aussi se présente donc du charbon, que ce soit de la houille ou que ce soit du charbon. Il y a cette différence aussi entre l'âge de la roche selon qu'elle a été aussi plus ou moins compressée, on va dire.
Voilà. Et à Carlincas, vous avez en plus des panneaux qui montrent les différents types de roches. Il y a un petit sentier géologique, je le dis aux auditeurs qui seraient intéressés. Et puis, vous avez les rufes, donc au Permien. Donc, le Permien, c'est après le Carbonifère. Alors, vous les avez autour du lac du Salagou.
Du Salagou, entre autres.
Alors, pourquoi elles sont rouges, à votre avis?
Je pense que c'est une oxydation.
C'est ça, voilà.
Tout simplement.
Oui, parce que j'ai lu une fois sur Facebook des gens qui disaient « Mais c'est rouge parce que c'était volcanique ». Ben non, pas du tout. Il y a des volcans dans la région, mais les laves volcaniques, elles sont bleues, elles ne sont pas rouges.
De toute façon, ça se passait, on va dire, aux environs de 270 millions d'années. Et notamment, donc, dans le Lodévois, il y a le fameux plateau basaltique du Kérou, avec son incroyable, bien sûr, paysage de rufes, terre rouge du Lodévois, qui date de cette époque et qui alterne parfois avec de la roche basaltique, mais beaucoup plus récente, puisqu'elle résiste de coulées de lave de volcans qui étaient en activité il y a moins de 2 millions d'années.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, donc les rufes, elles datent du Permien, on l'a dit, sont des argilites, des argiles, et la couleur rouge, c'est l'oxydation du fer, tout simplement.
Uno, dos, un, dos, tres.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, 'cause I caught her messing around town. Well, all right. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way.
And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her, just 'cause I shot her down. All right.
Nous en avons fini avec l'ère primaire, que certains qualifient d'antiquité, pour aborder ce que l'on pourrait assimiler au Moyen-Âge, avec l'ère secondaire, dénommée Mésozoïque, vers 250 millions environ. C'est le début de l'ouverture de l'océan Tétris.
Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire et la géologie, c'est un perpétuel recommencement. Donc, les continents qui s'étaient séparés, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rassembler de nouveau. Et ils vont se rassembler, ils vont se séparer. Bref, c'est reparti pour un tour. Au début du Trias, donc tout ce qui c'est la chaîne hercynienne s'est érodée. Il n'y a plus de chaîne, il y a juste une plaine. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un océan qui revient. L'océan dépôt de roches détritiques par l'érosion et les coquilles des mollusques marins. Alors l'océan Tétis, on l'appelle aussi océan alpin parce que c'est à l'endroit de sa fermeture que vont s'affronter les plaques européennes et africaines. Mais pas que, ça serait trop simple. Il y a d'autres petites plaques et ça va donner la chaîne des Alpes.
Très bien. Donc, on est au Trias et, disons, va débuter l'apparition des premiers dinosaures et des mammifères. À la fin du Trias, dirons-nous.
Oui, dès le Trias, il y a les fameux dinosaures. Alors, il y a diverses tailles. Alors, une parenthèse, si vous voulez parler de dinosaures, c'est au Crétacé et non au Jurassique qu'il y a les bestioles de Jurassic Park. C'était plus commercial d'appeler Jurassic Park que Crétacé Park, je suppose. Mais enfin, bon, bref, c'est des bestioles du Crétacé. Alors, il y a des mammifères à côté qui vivent la nuit en essayant de passer inaperçus. Et parmi eux, dans ces mammifères, une sorte de bête un peu plus petite qu'un écureuil qui est notre ancêtre à vous, à moi et même à cette charmante Léonie.
Un très lointain cousin. Donc, et cette période, justement, est relativement riche dans les roues. Puisqu'il y a plusieurs sites qui correspondent au Jurassique. Il y a le site de Mourez, qui est un amphithéâtre de reliefs ruiniformes sculptés dans les dolomies du Jurassique. Il y a également le site de l'Infernet à Saint-Guilhem-le-Gueyser, qui est une gigantesque muraille de calcaire et de dolomies du Jurassique, qui ont été creusées durant des millions d'années par le Verdus. Il y a également le plateau de Grésac, ancré dans l'Écosse et lui aussi composé de calcaire et de dolomie du Jurassique, sans oublier les magnifiques orgues de Tossac. Ce ne sont pas des orgues volcaniques, justement, mais des orgues dolomitiques qui datent du Jurassique. Voilà, et on arrive à moins 666 millions d'années, et là.
Alors là, c'est la comète. Bien sûr, tout le monde connaît la fameuse comète qui a tué les dinosaures dans le golfe du Mexique, certes. Mais il faut savoir que d'abord, elle détruit 75% de la vie. C'est beaucoup, mais c'est pas l'extinction la plus terrible. Mais il semble en plus qu'elle tombe dans un monde qui avait commencé à décliner. Pourquoi ? Parce que l'Inde s'est séparée, l'Inde était complètement au pôle sud avec l'Antarctique et l'Australie. Elles se séparent, puisque comme je l'ai dit, ils passent leur temps à se séparer, se rassembler. Elles se séparent et elles montent vers la Ouellet et elle passe sur le point chaud où il y a actuellement la Réunion. C'est un point chaud, c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur qui remonte de la terre.
Ouais.
L'Inde commence à fondre en partie, pas tout, heureusement, et c'est des volcans énormes, c'est les trappes du Deccan et c'est des gaz qui ne sont pas très sympas. Et donc, ça n'a pas dû aider les dinosaures. La comète arrive là-dessus et elle détruit ceux qui restent. Alors, il n'y a plus de dinosaures. Il n'y a plus de dinosaures, vous croyez ? On a toujours les oiseaux.
Exactement.
Voilà. Donc, vous pouvez toujours vous consoler en sachant que les oiseaux sont toujours là.
Voilà, nous approchons de la fin de notre voyage, donc nous quittons ce Moyen-Âge pour accéder à ce qu'on peut appeler le temps moderne, notre époque contemporaine, avec la troisième ère, l'ère cénozoïque. On notera pour celle-là la période, environ moins 40 millions d'années, qui a marqué la formation des Alpes et des Pyrénées.
C'est l'Afrique qui remonte, puisque l'Afrique remonte et puis elle change d'orientation au bout d'un certain moment. Elle tourne vers l'Est et elle vient emboutir l'Europe. Ça donne les Pyrénées, parce que l'Espagne accompagne ce mouvement, je ne vais pas détailler, mais enfin bon, en gros, et elle provoque les Alpes. Et chez nous, eh bien, elle rehausse les Cévennes. Et les Causses, donc, qui sont rehaussées depuis aux alentours de 50 millions d'années.
Voilà. Et alors, si on continue à remonter le temps, moins 30 millions d'années, c'est le début de l'ouverture de la Méditerranée.
Ah oui, mais alors là, on ne va pas trop rentrer dedans parce que la Méditerranée, c'est sympa quand on est au bord de la mer avec un verre de Ricard et tout ce qu'on veut si on aime le Ricard et les plages calmes. Mais la mer Méditerranée, c'est compliqué. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une mer. Voilà, c'est un océan et c'est même plus qu'un océan, c'est plusieurs océans. C'est des océans, c'est des mers, des bassins, des rifts, de la subduction. Il faut aller voir ce qui se passe sous la crête, c'est pas triste. Je m'arrête là parce que c'est compliqué. Vous avez le bloc Corso-Sarde, donc la Corse et la Sardaigne, qui continuent leur mouvement et donc qui créent en tirant sur la lithosphère, c'est-à-dire sur les plaques, un bassin. Et bref, donc la Méditerranée, c'est pas parce qu'elle se rétrécit inéluctablement et qu'elle va mourir qu'il faut lui retirer le qualificatif d'océan. Elle est beaucoup plus compliquée que l'Atlantique qui, lui, s'ouvre très gentiment.
Oui. Donc, en remontant toujours, on arrive à la période du Miocène, là, vers 23 millions d'années. Et là, il y a une curiosité dans l'Hérault, c'est le chemin de croix de Gignac. Cette succession de chapelles, qui bien sûr ne date pas de cette période, qui ont été bâties sur un promontoire qui est en fait un ancien lit de rivière. Voilà. Et alors on arrive naturellement maintenant, je dirais aux dernières phases qui sont encore très visibles sur le terrain, c'est la période volcanique qui commence vers moins 3 millions d'années.
Alors, cette période volcanique, elle commence à Agde et puis elle remonte. Elle remonte jusqu'à l'Auvergne. Elle s'inscrit donc dans un rift. Un rift, c'est une séparation. Vous avez des splendides restes sur la plage d'Agde. Et puis, vous avez donc l'Escandorgue, toujours dans notre région, qui est un plateau à voir. Aucune chance que les volcans de l'Hérault se réveillent, malheureusement. On peut dire, ou heureusement, cela dépend de
oui,
votre point de vue, contrairement au Puy-de-Dôme qui, lui, pourrait. Hein, mais bon, les volcans d'Hérault, ils sont vieux, ils sont trop vieux et ils sont morts. Le point positif est qu'on peut se promener dessus, ce qu'on ne manquera pas de faire, et puis de vous raconter lors d'une prochaine émission.
Tout à fait. Et là, j'ai un petit exemple, c'est le fameux Céressou, le Céressou qui est pas très loin de Montpellier, là, qui domine la plaine environnante. Lui, il crachait du feu entre moins 2 et donc moins 1 million d'années, émergé de la mer qui recouvrait la région. Son cratère est depuis longtemps comblé, donc pas de souci de son côté, n'est-ce pas? Voilà, donc notre exploration qui s'est basée en partie sur l'histoire du géoparc Terre d'Hérault, conçu et réalisé par le département de l'Hérault, c'est une démarche qui devrait aboutir en 2026 sur le label UNESCO sur la géologie, comme l'ont déjà obtenu le Quincy ou le Luberon, autre haut lieu de la géologie française. Merci Yolande donc pour ces informations très documentées de notre géologie régionale et planétaire que j'ai dû malheureusement dans le temps qui nous est imparti limiter. Oui. Nous y reviendrons, mais nous reviendrons d'une façon différente pour approfondir certains points de cette géologie. Donc Radio FM+, notre chronique hebdomadaire numéro 6, Je marche donc je suis, se termine. Vous avez le podcast à disposition sur le site de la radio par l'adresse radiofmplus.org. Vous pouvez à partir du podcast laisser vos commentaires, conseils ou propositions pour améliorer cette chronique qui se structure. Vous pouvez également envoyer directement un mail à contact@radiofmplus.org. Merci Yolande pour Merci. Cette contribution de haut niveau. On se quitte maintenant avec une chanson que tu vas nous présenter.
Alors c'est une chanson qui s'appelle Believe, c'est d'un groupe de rock suédois actuel qui s'appelle Normandie, Normandie IE. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'il parle de, dit qu'il a la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Ça me fait penser à notre radio qui est souvent la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Alors je dédie ça eh bien, à Nathalie de notre radio FM+.
Donc voilà. Restez à l'écoute. Bye bye et à la semaine prochaine, 10h.
All your secrets, can you keep them? It's the poison that you're holding inside. Will you reach out for the cure and face the fight? Won't let you go. I know your heart is aching.